Louvoigny. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Marjane Satrapi. Ce soir, la religion.
Bonsoir Marjane Satrapi.
Bonsoir Virginie.
Hier soir, nous avons parlé de la façon dont vous avez entamé l'écriture et le dessin de Persepolis au début des années 2000, avec en tête un modèle, Maus d'Art Spiegelman, que vous avez rencontré à New York. Nous avons parlé de l'humour de Persepolis, de votre façon de dessiner. Ce soir, il sera question de religion. Vos parents n'étaient pas croyants, vous nous l'avez dit, et vous ne l'êtes pas non plus. Dans Persepolis, il y a une planche dans laquelle votre père dit « C'est incroyable, la révolution est une révolution de gauche et la République veut s'appeler islamique. » Et votre oncle, communiste, lui répond « Ce n'est pas grave, tout ira bien. Dans un pays à moitié illettré, on ne peut pas regrouper les gens autour de Marx. La seule chose qui puisse les rassembler, c'est le nationalisme ou la morale religieuse. Mais les religieux n'ont pas la science pour gouverner. Ils retourneront à leur mosquée. Le prolétariat régnera. » J'aimerais avoir vos commentaires.
Le commentaire, c'est que, en fait, le communisme à l'époque, c'était une autre sorte de religion. Ça veut dire, c'est cette conviction dans laquelle on pense, en fait, que si c'est une dictature du prolétariat ou une dictature de peu importe, même la dictature écologique, c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, les gens, à un moment donné, ils ont un libre arbitre. Il faut qu'ils vivent librement. Il faut qu'ils puissent décider pour eux-mêmes. Après, si on veut changer les choses, ça se passera certainement plus par l'éducation. Oui, mais il y avait ce truc de un gouvernement islamique et une dictature de prolétariat. J'ai toujours été contre les deux. C'est pour ça que, à la première émission, quand on a fait, vous m'aviez dit si j'avais une idéologie, ça va avec la même chose. C'est pour ça, c'est mon refus de l'idéologie vient ce côté comme ça définitif où on doit accepter quelque chose. Et c'est le problème que j'ai avec la religion, c'est exactement le même.
Et votre oncle et votre père se heurtaient là-dessus?
Oui, parce que mon oncle, il avait fait un doctorat en marxisme-léninisme. Donc, vous voyez, il était vraiment convaincu. Mon père, il est beaucoup plus comme moi. Ça veut dire dans le doute, dans le questionnement, et de ne pas embrasser toute une idée en pensant que cette idée, c'est la bonne. Parce que l'idée est la bonne, mais comme toute chose dans la vie, vous pouvez défendre quelque chose, et exactement au même moment, vous pouvez exactement défendre l'inverse. Tout est défendable, tout ça dépend d'un point de vue.
La présence des gardiens de la Révolution dans les rues à Téhéran, vous faisait peur ou vous mettez en colère?
Les deux. Il faut dire les deux. Et la peur, parce que de toute façon, quand vous êtes une gamine, ou même quand vous êtes grand, le fait d'être tout le temps épié par une sorte de police, c'est pas très agréable. Je l'ai vécu même pendant le confinement, le fait qu'il y ait des flics partout. Je vais pas dire que c'est qu'ils vous regardaient comme ça un peu de façon suspicieuse. Si vous étiez dans le rayon de 1 km ou si on était à 1 100 km, c'est pas des moments très agréables. Et ce truc où, finalement, quand un gouvernement vous traite comme un enfant, vous voyez, quand il vous fait pas confiance, comment voulez-vous lui faire confiance, ça va dans les deux sens. Donc la présence, l'omniprésence des gardiens de la Révolution, en plus on nous arrêtait vraiment pour un oui, pour un non. Moi j'étais arrêtée parce que j'avais des chaussettes rouges et que les chaussettes rouges allaient mettre l'islam en danger. Donc vous voyez, ils m'ont dit ça texto.
Et après, il se passe quoi? Ils vous conseillent de rentrer chez vous pour les changer ou vous êtes emmené
Ça dépend de votre réaction. Normalement, si vous commencez à gueuler, ils vous ramenez au comité. Et là, normalement, on nous disait, parce que je ne sais plus, mais maintenant, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas rentrée en Iran. Mais à l'époque, c'était bon, soit vous payez, et donc, soit je ne sais pas quoi, il y a des punitions. Et normalement, il y avait toujours les parents pour venir pour payer, quoi.
Avant la révolution islamique, Marjane Satrapi, le port du voile était très respecté à Téhéran.
Non, avant la révolution islamique, il n'y avait pas du tout de port de voile. Par contre, il y avait cette liberté, les gens ils se voilaient ou ils ne se voilaient pas. À Téhéran, il n'y avait pas beaucoup, certainement dans les quartiers sud. Mais moi, dans mon milieu, il n'y avait pas une seule femme voilée, non. Mais c'est devenu une loi, c'est pas quelque chose du tout que nous avons choisi. Et c'est pour ça aussi que je l'ai tellement mal vécu, ce truc de « il faut avoir un truc sur ma tête » que je ne peux pas imposer l'inverse à quelqu'un d'autre. Je peux pas décider, moi, de l'habillement de quelqu'un. Je l'ai mal vécu. Donc, c'est la moindre des choses. c'est un peu de, pour, juste pour avoir de l'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autrui, un peu, et de se dire, moi, à sa place, comment je réagirais? Et je pense que je réagirais pas bien. Non, c'était pas, et moi, je me rappelle quand je suis partie de l'Iran, en 94, un des trucs, je me rappelle quand je suis sortie de Iran Air, j'ai enlevé mon foulard comme ça, je l'ai jeté dans la poubelle, et j'ai dit, plus jamais je mettrai ça sur ma tête. Voilà. Et je ne l'ai plus jamais remis.
Et vous avez vraiment fait ce que vous racontez dans une planche de Persépolis, c'est-à-dire pour détourner l'attention de gardiens de la Révolution, parce que vous étiez très maquillée dans la rue, ouais. Dénoncer un garçon qui n'avait rien fait ouais, en disant
sûr.
Qu'il vous suivait. Oui.
Bien sûr, je
l'ai fait. Et il a été emporté ensuite.
Oui, mais après, vous savez, c'est des mécanismes de survie, mais c'est absolument lâche. Oui, j'ai été très lâche, mais comme tout le monde, hein, vous savez, des fois, on est lâche. Mais c'est des choses que vous faites, et après, la honte est tellement énorme que vous ne le refaites pas. La lâcheté, ce n'est pas une bonne chose. Oui, je l'ai fait. Mais je n'en suis pas fière du tout.
Ce qui vous a valu la colère de votre grand-mère.
De ma grand-mère, oui.
Parce que on ne pouvait pas savoir comment on réagirait.
Mais je lui ai dit que j'avais pas le choix, et elle m'a dit cette phrase qui m'est restée toujours, on a toujours le choix. C'est-à-dire, à la fin, par exemple, imaginez, vous êtes un prisonnier politique, et ben, vous pouvez toujours faire le choix qu'on vous tue au lieu de dénoncer vos amis. Vous avez toujours le choix de mourir, c'est le choix ultime, mais le choix existe. Et il y en a des gens qui donnent leur vie. Eh ben, ça s'appelle les honorables et les autres, c'est des lâches. Donc, à un moment donné, vous savez, la vie, ça vaut être la peine d'être vécue si on est droit et si, voilà, si vous pouvez vous donner tout. Après, s'il faut ramper par terre comme un serpent, en faisant semblant juste d'être, en vivotant un peu, vaut mieux ne pas être vivant du tout. Ça, c'est quelque chose que je sais. Du coup, ça, c'est devenu, sincèrement, c'est devenu une sorte de mojo comme ça dans ma vie. C'est que chaque décision que je dois prendre, la conséquence, il y a deux conséquences, il y a deux questions que je me pose à chaque fois dans ma vie. C'est un, est-ce qu'on peut me mettre en prison? Parce que je pense que je ne supporterai pas. Non. Deuxième chose, c'est est-ce qu'ils peuvent me tuer? Non. Donc, si je suis en vie et je ne suis pas en tôle, tout va bien. Donc, mes décisions sont toujours prises par rapport à ça. C'est-à-dire, le plus grand truc, c'est qu'on m'enferme ou qu'on me tue. Après, le reste, vous savez, tant que je vis, tant que j'ai des poumons dans mon, j'ai de l'air dans mes poumons, que je peux fumer une cigarette, que je peux rigoler, tout va bien.
Dans Persépolis, vous racontez que au début de vos études, enfin pour faire des études d'art graphique à Téhéran, c'est là que vous commencez à étudier, il faut passer un test idéologique.
Tout à fait.
Et l'homme qui vous reçoit, qui vous interroge, est plutôt bienveillant et vous écrivez, c'était un vrai religieux.
Oui. Parce que vous savez, il y a ce truc avec le vrai, c'est-à-dire le problème que j'ai avec la religion, c'est que dans les faits, c'est-à-dire si on pense à ce que prône la religion nous dit il faut pas tuer son prochain, il faut aimer son prochain, les valeurs de tolérance, d'amour, il faut pas voler, il faut pas faire ceci, etc. En fait, ça a été fait pour faire donner une structure à nous, les grands singes sauvages qui étions, qui sommes devenus des êtres humains. Voilà, on va se donner des règles pour pouvoir vivre bien ensemble. Le but, c'est ça. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que quand vous dites que quelqu'un est très religieux, vous savez d'emblée, quelqu'un de très religieux est homophobe, quelqu'un de très religieux est misogyne, il n'est pas tolérant. En fait, ce n'est pas du tout synonyme de tolérance ni d'ouverture d'esprit et tout ça, parce que le fait est que la religion est misogyne. N'importe quelle religion monothéiste, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam, ils sont tous misogynes, parce que la base de tout, c'est le fruit défendu. Il y a Adam et il y a Ève, et c'est la faute d'Ève. Et personne ne dit, quand bien même Ève aurait dit à Adam, viens mon petit Adam, on va bouffer une pomme, pourquoi Adam serait aussi con pour dire oui? Adam, il aurait pu aussi dire, écoute, non, Ève, on va pas bouffer cette pomme. Mais non, il la suit, et après, c'est la faute d'Ève. Donc, vous voyez, il y a toujours comme ça, il y a un problème avec l'image de la femme. Donc, déjà, quand vous êtes une femme, je ne sais pas comment on peut être religieux, parce que c'est contre nous. C'est absolument misogyne. Donc, voilà, dans ce contexte-là, quand je dis un vrai religieux, ça veut dire, dans le sens de ce que ça peut être, ça devrait être, ça veut dire la compréhension de l'autre. Et c'est vrai que quand j'ai passé ce concours, j'ai beaucoup de mal à mentir. Donc quand il m'a dit, est-ce que vous savez prier? Non, je ne sais pas prier. Est-ce que vous croyez au voile? Non, je ne crois pas au voile. J'ai tout dit. Il m'a dit, écoutez, vous avez au moins le mérite d'être honnête. Et donc j'ai eu le concours quand même. Mais j'ai quand même passé l'examen. On a tous passé l'examen sur le testament de Imam Khomeini. Et là, je n'avais pas étudié et je me suis dit, si j'étais Roménie, moi, qu'est-ce que j'aurais dit? Et en fait, j'ai eu 20 sur 20 à mon examen.
C'était un testament intellectuel ou il fallait imaginer ce qu'il souhaitait?
Oui, ça veut dire, vu qu'on avait entendu les conneries pendant des années, c'était quand même assez facile d'imaginer ce qu'il va dire pour sur ceci ou sur cela. C'est quand même assez prévisible. Oui.
Lorsque, après la révolution islamique, l'école française, le lycée français dans lequel vous étiez, ferme très vite.
Ouais. Ouais. Elle a fermé très vite, mais bon, à l'époque, vous savez, il y a toujours le système D qui s'installe. C'est ça ce qu'il ne faut pas oublier. C'est de penser que dans un pays, parce que les choses sont interdites, donc ces choses-là ne se passent pas, c'est exactement l'histoire d'Adam et d'Ève. On leur dit, faites tout ce que vous voulez, le paradis est à vous, juste ne bouffez pas ce fruit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bouffer le fruit. C'est l'être humain, il est comme ça. Donc plus vous interdisez quelque chose, et plus il devient attirant. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, le truc qui s'appelle maintenant le CNED, à l'époque ça s'appelait le CNTE, donc on prenait des cours de français avec des professeurs français ou francophones, et donc la journée on était en école iranienne, et l'après-midi venu, on suivait les cours en langue française et on passait nos examens par correspondance. Oui.
Alors après, Marjane Satrapi, vous avez dû, après la Révolution, porter le voile.
Oui, que j'ai détesté, oui.
Et même parfois une cagoule.
Oui.
Et vous avez détesté ça, mais vous avez dit assez récemment, en février dernier, au Figaro, « Je me battrai pour que les femmes puissent porter le voile, même si je déteste ça. »
Oui, absolument. Je pense que la condition sine qua non pour un individu de pouvoir se déclarer être libre d'esprit, c'est d'aller au-delà de ses propres convictions. Parce que dès lors où, même si j'ai une conviction, je peux aller outre cette conviction parce que je crois en quelque chose qui est encore plus grand que cette conviction, c'est là où je peux dire que je suis même détachée par rapport à moi-même. Et la liberté d'esprit, ça commence d'abord d'être détachée même de son propre esprit pour avoir cette liberté absolue de l'esprit. Et c'est vrai que, dans le fond, pour moi, le voile a une signification. Pour moi, c'est vraiment un symbole de la soumission. C'est un symbole misogyne. Je n'aime pas ça. Ceci étant dit, je ne suis pas du tout dans la tête de quelqu'un qui veut porter le voile. Et je sais que, par exemple, dans mon pays, dans les années 20, le père du Shah d'Iran a décidé que le voile serait interdit. Voilà. Donc, quand il y avait des femmes qui venaient, par exemple, au bord des rivières et faisaient leurs lessives, les soldats venaient, ils leur arrachaient leurs fichus. Et ces pauvres dames, elles remontaient leurs jupes sur leur tête. Ça veut dire, c'était, le sentiment de nudité était tel qu'elles préféraient montrer le bas plutôt que de montrer le haut. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il n'y a pas eu réellement un changement culturel qui s'est passé, et ben, 50 ans après, quand il y a eu la révolution islamique, le voile est venu très facilement. Pourquoi? Parce que dans les années 60, nous portions les mini-jupes les plus courtes qui existaient sur ces terres. Sauf que la mini-jupe est venue en Europe suite à une révolution sexuelle. Les femmes, elles ont dit « je baise avec qui je veux, donc j'enlève mon soutien-gorge et je montre mes jambes ». Donc c'est le résultat, en fait, d'un grand changement à l'intérieur de la société qui fait que les femmes, à un moment donné, décident de montrer leurs jambes. En Iran, nous étions vierges avant le mariage, très de traditionnalisme et d'aspect, nous étions très modernes. Donc, être juste moderne d'aspect, s'il n'y a pas tout le changement culturel qu'il y a derrière, ça ne marchait pas. Donc, je pense que c'est quelque chose de culturel. Après, je vous dis, je suis tellement lointain de la religion, mais je me dis qu'en 2020, alors qu'on va certainement aller coloniser la planète Mars, qu'on pourra faire pousser des patates. Encore faut-il savoir comment on va faire pipi sur la planète Mars, parce que ça, je n'ai toujours pas trouvé la réponse pour ça. Si les gens, ils vont toujours dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, s'ils croient toujours, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment ancré chez l'homme, et la raison, elle est très simple. Cette raison, c'est que nous sommes les seules espèces sur cette terre qui avions conscience de notre mort. Sauf que vous, moi, Albert Einstein et le meilleur d'entre nous, nous mourrons pour les mêmes raisons qu'un ver de terre. C'est-à-dire, à un moment donné, nos cellules ne se reproduisent plus parce que la génération d'après doit venir beaucoup plus virulent, avec 28 dents au lieu de 32, et ceci est plus grand, plus machin. Et c'est pour ça qu'on meurt. Et c'est les mêmes raisons qu'une bactérie, une amibe, un ver de terre, un chien, et vous et moi, c'est la même chose. Or, nous, on a créé la philosophie, on a créé l'art, on a créé la musique classique, on a créé la littérature, on a fait ces édifices incroyables, et on doit mourir pour les mêmes raisons. C'est insupportable. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui est au-delà. Et après, ça devient quelque chose que, comme encore pour revenir à la première émission, quand on parlait de la gauche, et je vous disais, la gauche, ça me fait penser un peu comme aux gens religieux, c'est la même chose. C'est le problème de la religion, c'est que quelqu'un qui croit, il est du bon côté. Et quand vous ne croyez pas, vous êtes du mauvais côté. Et cette intolérance, pour moi, c'est insupportable. C'est exactement pour cette raison que je ne veux pas être intolérant comme un religieux. Je pense que face à une dogme qui est une religieuse, si vous prenez les mêmes armes pour le combattre, on n'arrive à rien. Il faut montrer la tolérance. Donc c'est pour ça que même si je déteste le voile, je vais le défendre, parce que comme ça, je donne l'exemple de ce qu'est la tolérance. Et c'est comme ça qu'on construit un monde. C'est à celui qui a de plus de raisons et qui est moins dans l'émotion de montrer l'exemple. Parce que la base de toute chose, fanatisme, toutes sortes de fanatisme, c'est l'émotion. Vous savez, vous appuyez sur le bouton de l'émotion et que les gens y sortent et qu'ils hurlent et qu'ils brûlent et qu'ils font ça. Et si vous êtes dans la réflexion, si on réfléchit, à ce moment-là, juste vous faites un pas en arrière. Et c'est là où on se rend compte que c'est bien plus compliqué. Et deux pas en arrière, ça devient encore deux fois plus compliqué, etc., etc. Mais après, on peut construire quelque chose de beaucoup plus solide, qui n'est pas juste l'émotion. Voilà.
Et la loi sur la laïcité française, la loi qui interdit les signes religieux dans les lieux comme l'école,
oui.
Vous en pensez quoi?
Moi, je ne pense pas qu'on légifère, je pense qu'on éduque. Je n'ai jamais été pour la législation parce que les lois, c'est comme un bain d'alcool que vous allez faire prendre à quelqu'un qui a de la fièvre. Évidemment, quelqu'un de fiévreux, vous le mettez dans le bain d'alcool, ça baisse la fièvre, c'est sûr, mais la personne a la fièvre parce qu'il y a une infection quelque part. Il faut essayer de comprendre pourquoi il y a la fièvre pour pouvoir y remédier. Donc la législation, ça a fait que, est-ce qu'on a moins de femmes voilées? Non, on en a plus. Et ils ont quand même réussi un tour de force extraordinaire, c'est que le voile est devenu symbole de l'émancipation, voire de la rébellion. Vous voyez, c'est quelque chose, il fallait réussir à obtenir ça. Je pense qu'il faut faire un travail d'éducation, et puis surtout, il faut se poser la question, pourquoi il y a 30 ans, 40 ans de ça, il n'y avait pas autant de femmes voilées, et pourquoi il y en a? Pourquoi les filles de ces femmes qui n'étaient pas voilées se voilent? Et ça, c'est la vraie question. Et je pense que la réponse est beaucoup plus géopolitique, il est beaucoup plus lié à l'histoire, et beaucoup plus lié à l'identité que ce soit une vraie question religieuse.
Si on ne légifère pas, Marjane Satrapi, vous connaissez bien les États-Unis, vous y avez habité, on a un système où on prend le risque de voir, par exemple, comme c'est le cas en ce moment, des évangélistes entourer le président de la République, et peser sur les décisions.
Oui, oui, bien sûr que vous avez le risque d'avoir ça, mais en France, vous avez Christine Boutin qui a sorti la Bible en pleine assemblée, hein. Ça existe aussi. Et ici, vous avez eu quand même des milliers de gens qui ont manifesté, manif pour tout aussi. C'est des cathos qui disent un homme et un homme ne peuvent pas se marier parce que Jésus-Christ a dit que et parce que notre religion a dit que. Donc, c'est éducatif le travail. C'est pas parce que on fait la différenciation entre l'État et la religion qu'il ne se passe plus rien. Il se passe quelque chose, et cela pour tous les beaux religieux. Il y a ça aussi. C'est manif pour tout. Pour moi, c'était quelque chose de très choquant. Je ne pensais pas que la société française serait aussi conservatrice. Et puis les gens dont vous voyez la tête, que jamais dans votre tête vous dites c'est une catho intégriste, ouais, et ça existe. C'est la même chose, mais je pense que c'est vraiment une question de considération, c'est une question de faire partie d'une société, parce que je peux m'imaginer. Vous voyez, c'est pour ça aussi que je peux pas réellement m'étaler sur le sujet, parce que moi, mon pays n'a jamais été colonisé. Je viens pas d'un milieu pauvre. Mes parents, ils étaient pas travailleurs, je sais pas quoi. Ils n'ont pas travaillé dans les usines. Je viens d'un milieu bourgeois. Mais après, je me demande, qu'est-ce que ça aurait été si, par exemple, je serais là depuis 3 générations, 4 générations et qu'on ne m'estimait pas complètement comme un Français? Aurais-je un problème d'identité? Certainement. Trouverais-je peut-être la solution dans le fait de revendiquer une religion? Je pense qu'il y a des problèmes comme ça. Après, je vous dis, c'est des questions que je me pose. Mais je pense qu'avant de légiférer, il faut se poser ces questions. Mais ce n'est pas à moi de répondre. C'est à ceux qui légifèrent. Qui revient, même que c'est une obligation, de d'abord se poser ces questions avant de faire des articles de loi, parce que c'est trop facile.
Alors, cette loi, elle n'est pas faite contre une seule religion. Elle est faite sur les ports de signes religieux. Elle concerne tous les signes religieux.
Oui, mais le problème avec cette loi-là, par exemple, c'est qu'à la fin, vous avez une double punition pour les filles. Parce que vous savez, les garçons qui traitent ces filles de putes parce qu'elles ne se voilent pas et tout ça, eux, ils ont toujours accès au banc de l'école. C'est ça, le problème. Le problème, c'est que c'est toujours les femmes. On décide, une société décide pour les femmes de la façon dont elles doivent s'habiller. Ça concerne tout le temps les femmes. Et ça m'énerve. Alors, de quelque façon que ce soit, ça m'énerve. C'est-à-dire, quand on couvre la femme en disant « Ah, c'est le diable, il faut la couvrir, mon Dieu, ça va exciter les hommes », sans apprendre aux hommes, écoutez, Mégane, ne vous excitez pas juste en voyant une femme ou regardez ailleurs, regardez vos pieds, le mur, le soleil, un arbre, allez-y. Bon, voilà. On peut faire ça aussi. Mais ça m'énerve autant que quand je vois, par exemple, salon d'automobile, vous avez des jeunes filles comme ça, voilà, avec des décolletés les plus plongeants possibles et tout ça, et vous avez des vieux cochons qui viennent leur dire « Alors, la voiture, le châssis est aussi bien monté que vous, mademoiselle ?» Je trouve ça également dégradant. Et je pense qu'il faut que la société arrête de décider sur comment une femme... Comment elle doit être gaulée? Comment elle doit être habillée? Est-ce qu'elle doit se couvrir? Est-ce qu'elle doit pas se couvrir? Parce que pendant ce temps, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Vous voyez, ils vieillissent, ils grossissent, ils deviennent blancs, il n'y a pas de problème. Nous, il y a toujours un commentaire à faire. Mais foutez-nous la paix, quoi. C'est ça ce que j'ai envie de faire. Après, pour vous dire, moi, je suis vraiment, je prône pour la tolérance. Et s'il y a moi qui trône pour la tolérance dans le monde, et vous pouvez vous imaginer que le monde doit avoir un grave problème, parce que je suis vraiment pas symbole de la tolérance, mais je pense très sincèrement qu'à un moment donné, on s'en fout. Il faut que les gens ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Du moment où ils emmerdent pas les autres, du moment où ils font pas du prosélytisme, du moment où ils vivent, je m'en fous de ce qu'ils font. Qu'elles veulent se couvrir, qu'elles se couvrent, qu'elles veulent pas se sous-couvrir, qu'elles veulent montrer leur sein, qu'elles veulent pas... Je m'en fous. J'ai juste envie que les gens puissent vivre comme ils ont envie de faire, comme moi je voudrais qu'on me laisse vivre comment j'ai envie de vivre, quoi. Voilà.
Début septembre, s'est ouvert le procès de l'attentat contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher à la cour d'assises de Paris. Le procès durera à peu près jusqu'en novembre. Ce qui a causé ces tueries, c'est notamment le blasphème, la caricature. C'est caricature.
Mais encore une fois, en 2020, qu'on parle du blasphème, c'est quand même ridicule. Encore une fois, c'est les gens qui disent pourquoi il y a eu ces caricatures. Ben, ne regarde pas. C'est aussi simple que ça. C'est les gens qui disent ah, ce film est choquant. Il faut qu'il soit interdit. Ne va pas le voir. N'achète pas le billet. Ne va pas le voir. Tu n'aimes pas la couverture de Charlie Hebdo. Ne le regarde pas. Ne le lis pas. Ça t'est pas destiné. C'est ça ce que je comprends pas. C'est quand les gens ils veulent faire interdire des livres. Ils veulent faire interdire des films. Ils veulent faire interdire. Ne regardez pas. C'est pas grave. Mais il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui s'expriment, etc. Quand même de mourir. Parce que vous êtes juif. Ou parce que vous avez fait des caricatures. Ou parce que vous êtes tout simplement assis à une terrasse de café. C'est quand même affreux, c'est évidemment condamnable, mais je pense qu'on s'en sort pas mal en France. Ça veut dire que ça nous a pas réellement divisés. Et je pense qu'il y a eu une espèce comme ça de union nationale autour de ça. Et là où ils ont voulu marquer, c'est dans un quartier comme dans le 11e arrondissement, là où nous sommes.
Dans votre, ici, oui. Votre atelier.
Atelier, où sincèrement, tous ces gens qui disent le multiculturalisme, ça ne marche pas, etc., ils n'ont qu'à venir voir la rue de la Roquette, comment ça fonctionne très très bien. Les uns vivent à côté des autres, vous avez la boucherie halal, à côté de ça, vous avez la charcuterie, à côté de ça, vous avez le bar. Tout ce beau monde vivent les uns à côté des autres et il n'y a pas de problème, parce que les gens foutent la paix aux autres, c'est juste foutons-nous la paix mutuellement. Et puis s'il y a quelque chose de choquant, ben nous regardons pas, c'est tout. Moi, c'est quelque chose qui me choque ou qui m'attriste, je n'ai pas qu'à le regarder. Je ne peux pas l'interdire à tout le monde. C'est complètement lamentable, évidemment.
Vous avez déjà fait des dessins de presse et de la caricature, Marjane Satrapi?
Non, je ne fais pas de la caricature, j'ai fait des dessins de presse et j'ai arrêté quand même parce que c'est un truc qui me fait très honte. Parce que vous savez, moi j'aime beaucoup la réflexion et je pense que sur un truc à chaud, je réagis. Et puis genre 2 semaines après, 3 semaines après, 1 mois après, je découvre que en fait l'histoire c'était pas ça, c'est autre chose. On découvre en fait les tenants et les aboutissants de cette histoire, sauf que j'ai eu une réaction à chaud. Et donc cette chose-là, je l'aime pas du tout. Et donc moi, je suis pas faite pour ce genre. Il y a des gens qui font ça avec brio, qui sont des énormes dessinateurs de presse. Tant mieux pour eux, mais c'est pas un métier pour moi.
Et la caricature?
La caricature, je peux l'apprécier ou pas l'apprécier.
Et la faire,
Non, c'est pas mon truc. Non. C'est pas du tout. J'ai pas du tout le tournant d'esprit pour ça. Non, ça m'intéresse pas.
Et vous lisez des, enfin, vous êtes attentive dans les journaux, parce qu'il y a soit des
hebdomadaires. Quand c'est bien, par exemple, dans le New Yorker, les dessins de presse, ils sont extraordinaires, bien sûr. Ça, je regarde ça religieusement. Il y en a même que je coupe, que je peux garder. Mais c'est bien quand c'est vraiment de très bonne qualité. Quand ça l'est pas, non. Quand c'est juste pour faire son intéressant, ça m'intéresse pas trop.
Vous avez dessiné pour le New Yorker?
Ouais.
Une couverture?
J'ai pas fait de couverture. J'ai fait pas mal de dessins à l'intérieur de New Yorker. J'ai travaillé aussi pour le New York Times. Oui, j'ai travaillé beaucoup parce que, à un moment donné, vous savez, en France, vous avez toujours le problème, le phénomène que j'appelle le phénomène Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire, vous savez, il y a une haine contre Bernard-Henri Lévy qui est complètement disproportionnée par rapport à ce monsieur. Il y a des gens vraiment horribles en France qui sont appréciés. Je ne vais pas les nommer parce que voilà, j'ai suffisamment d'ennemis comme ça. Mais les gens, ils les apprécient alors que je sais que c'est des connards finis. Eh ben non, et puis ils sont parmi les 5 personnalités préférées des Français. Et puis, Bernard-Henri Lévy, on le déteste. Et c'est parce que, à un moment donné, quand vous êtes trop dans les médias, en France, ça fait ça, les gens, ils ont un trop plein de vous, et ils vous haïssent. Et à un moment donné, moi, j'étais très, très présent, dans les médias, il y a quelques années de ça. Et donc, comme j'ai envie de vivre tranquillement, je me suis dit que ça valait mieux que je diversifie mon activité, que je fasse ailleurs, qu'on me voit un peu moins, parce que j'ai toujours envie de autant travailler. Sauf que si je fais seulement tout en France, ça fonctionnera pas.
Mais vous avez senti un énervement de la part du public français?
Ah, bien sûr, bien sûr. Ils vous aiment. Et puis, à un moment donné, ils vous aiment plus du tout. Après, il y a un retour de grâce. Mais il faut tenir le choc. Oui, c'est, je trouve. Mais peut-être c'est comme ça partout, hein. Parce que Art Spiegelman, il me disait que lui, il avait vécu la même chose aux États-Unis. Mais après, lui, en France, il est très apprécié. Après, moi, je suis plus appréciée aux États-Unis parce que comme je vis pas là-bas, j'ai toujours un peu le phénomène exotique qui vient. Donc, on est toujours mieux chez les autres. Vous voyez, vous êtes un petit morceau de pâté, vous allez quelque part, vous devenez du foie gras. Voilà. Donc, il faut toujours faire un peu son foie gras ailleurs. Comme ça. Oui, on vit mieux, je pense.
Merci, Marjane Satrapi. À demain soir, nous parlerons de l'Iran et de la France.
Absolument, merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Marjane Satrapi. Voix nue, réalisation Marie-Laure Ciboulet, prise de son Arthur Dumont, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À Voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.